Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, à nouveau, nous accueillons Guillaume Schilling qui vient de Saint-Saint-César, aux confins de. Alors, vous avez le Cantal, l'Aveyron et le Lot.
Voilà.
Et qui revient nous voir justement pour continuer à animer cette émission. Bonjour Guillaume.
Bonjour, merci de l'accueil. On se sent chez nous ici maintenant.
Ah, très très bien.
À la deuxième émission.
Bonjour Armand qui est toujours aux manettes.
Bonjour Mathilde, bonjour Guillaume.
Oui, bonjour.
Vous avez dormi ici Armand parce que vous étiez là déjà?
Oui, je me suis mis un matelas, un duvet, c'est bon.
D'accord, très bien.
Qui a l'air très confortable.
Il manque plus que les gâteaux, c'est ça?
Voilà, exactement.
Armand aime beaucoup les gâteaux.
Vous allez me préparer bientôt, il me semble.
C'est ça. Alors, chères auditrices et auditeurs, Armand adore les gâteaux. Vous pouvez en envoyer à la radio, il sera ravi.
Vous pouvez venir me voir, me les apporter en main propre même, c'est mieux.
Voilà, encore mieux.
Avec des mains propres, oui.
Alors, nous allons continuer maintenant, si vous le voulez bien, sur la musique, après ce petit espace culinaire. Nous étions restés, lors de la dernière émission, Guillaume, sur les compositions. Vous disiez que, justement, la position du violon que vous avez, donc je rappelle aux auditrices et aux auditeurs, c'est que Guillaume joue du violon en portant le violon sur le bras, ce qui se retrouve énormément chez les violonneux, c'est-à-dire les gens qui jouent la musique traditionnelle, et que cela a accompagné en fait des répertoires spécifiques en fonction des terroirs pour des musiques qui étaient plutôt faites pour violon, mais que vous rencontriez des difficultés pour jouer les compositions qui arrivaient maintenant avec des gens qui composent à la trompette ou à l'accordéon ou à la clarinette ou à la flûte et qui donc jouent sur d'autres gammes, en fait.
Alors voilà, d'autres gammes, effectivement. Il faut savoir qu'au violon, en violon trad, on a des tonalités, hein, c'est-à-dire des gammes, c'est-à-dire la hauteur de la... c'est difficile à expliquer simplement, il faut que je me souvienne des cours de solfège. Disons que voilà, on part pas de la même note selon qu'on est en trompette ou en violon. Donc bien sûr, si une trompette et un violon jouent en même temps, il faut que l'un s'adapte à l'autre pour pouvoir jouer sur la même hauteur de note. Et donc ça peut être plus difficile, voilà. Donc nous en violon trad, en général on joue en sol ou en ré, voilà. Quelquefois
les tonalités.
Un sol majeur, ré majeur, voilà. Mais donc c'est sûr que quand on joue avec une cabrette qui joue en do, nous, ça nous fait changer un petit peu, mais ça fait travailler, c'est bien.
Ça fait travailler. Moi, on m'a proposé de jouer une crousade. Et là, je fais une spéciale dédicace à Thomas Restoin, qui est accordéoniste et qui vit en Auvergne. Bonjour Thomas, et j'espère que vous viendrez aussi à la radio. Et qui m'a dit un jour, viens, on va jouer une crousade en si majeur.
Oula.
Et alors là, le si majeur pour le violon, c'est
oui.
une tonalité très très compliquée. On a l'impression que ça peut être facile, ça va très bien pour la cabrette et pour la vielle, la roue, il me semble. Mais, alors les vielleux, si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à faire un retour. Mais alors pour le violon, je me suis retrouvée vraiment, vraiment en galère, j'allais dire. Vous confirmez ?
Oui, tout à fait. C'est comme quand on joue en fa, voilà. Enfin, c'est voilà, les tonalités pas faciles. Ça dépend si on joue en mineur ou en majeur aussi, mais bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais
disons qu'il y a des tonalités qui sont plus faites pour le violon, en tout cas classique qu'on a, avec cet accordage, et d'autres qui nous posent plus de difficultés.
Voilà. Et d'ailleurs, des fois, quand on a l'habitude de jouer avec quelqu'un, par exemple, si on doit jouer en do, ça vaut le coup des fois de désaccorder le violon, de le baisser d'un ton, et du coup, au lieu de jouer en ré, on peut jouer en do avec le collègue.
Alors, chères auditrices et auditeurs, je vous rappelle que nous avons interrogé Basile Brémo, que vous pouvez réécouter sur le site de Radio Présence.
Ah oui, faut pas
je laisse Armand donner le site web de Radio Présence.
Oui, www.radioprésence.com.
Et là-dessus, vous trouverez dans Musique Traditionnelle une interview de Basile Brémo qui joue effectivement sur des violons qui sont accordés de façon différente et qui explique pourquoi. Alors, je sais aussi, Guillaume, que vous jouez avec une trompette. Bon, vous savez de quoi vous parlez, avec Mathieu.
Et oui, oui, Mathieu Lepoire, mon compère musicien avec qui on passe de très bons moments. Voilà, on se connaît depuis longtemps, mais on a mis assez longtemps à se dire, tiens, on joue ensemble réellement, voilà.
Tiens, si on faisait un groupe.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Parce que voilà, on n'avait pas forcément les disponibilités, on est un peu aussi éloignés, donc voilà. On a créé un petit groupe qui est sans prétention pour l'instant, qui s'appelle justement l'Arlésienne, puisque on parlait souvent de faire quelque chose ensemble, et puis ça n'arrivait jamais. Donc le nom du groupe s'est imposé. Et voilà, donc c'est un copain musicien qui n'est pas professionnel mais tout comme, et qui fait de la guitare surtout, et de la trompette. Et donc ça nous permet d'explorer différents sons, différentes manières de jouer. Donc si jamais ça vous intéresse, vous regardez peut-être sur YouTube ou alors sur la page Agenda Trad de l'Arlésienne. Voilà.
Attendez, parce que si on a Armand qui mettra sur le site, donc normalement sur la descriptive de ce podcast et de cette émission, vous avez déjà des infos sur l'Arlésienne, sur
magnifique.
Tout ce que vous allez donner à Armand, n'est-ce pas Armand ?
Tout à fait.
Il est très très fort. Alors est-ce que vous auriez une composition à nous jouer ?
Oui, bien sûr, parce que j'avais commencé à dire à la semaine dernière ou la dernière émission, c'est que la musique, enfin en tout cas ma conception de la musique traditionnelle et la conception de beaucoup de monde qui en joue, c'est que c'est une musique vivante, donc qui doit évoluer comme elle a toujours évolué. Et donc s'il n'y avait personne pour faire des compositions, on resterait toujours sur les mêmes morceaux. Alors ils ont beau être super, au bout d'un moment on a besoin de grain à moudre. Et donc moi j'aime beaucoup quand mes copains composent, sauf si c'est vraiment raté.
Mais quand c'est des copains, on le leur dit.
Oui, on leur dit.
Tu as fait des choses mieux, voilà.
Mais donc voilà, moi j'ai 3 ou 4 copains qui ont le don de composer, et moi j'aime bien mettre en avant ces compositions parce que c'est le relais des beaux morceaux d'avant, voilà. Donc c'est ça. Donc je vais peut-être si ça vous intéresse, je vais vous jouer une composition, c'est une mazurka d'un ami qui s'appelle Sébastien Rix, qui est dans la région du Forez, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, et donc Sébastien, qui a l'accordéon chromatique, compose beaucoup, et parmi celles-ci, il y a une mazurka qui s'appelle Reflet.
Ça vous intéresse, Armand ?
Ben oui, j'aimerais bien l'entendre.
Allez, c'est parti.
Alors, allons-y.
À Figeac, 97.7.
Une mazurka jouée par Guillaume Schilling. Alors on me souffle à l'oreillette que ce n'était pas du ré mineur. Et du coup, j'ose demander aux auditrices et aux auditeurs de nous faire un retour et de nous dire en quelle tonalité c'était. Alors est-ce qu'il y aura des cadeaux pour les gagnants
Il y a un jambon, non, c'est ça.
Du pâté aussi.
Du pâté.
Du magret.
Voilà, du magret. Un gâteau fait par Armand. Donc n'hésitez pas à faire un retour s'il vous plaît sur le site ou par téléphone. Je laisse Armand dire tout ça.
Eh bien, c'est le 0565 348 348.
Voilà, vous appelez, vous dites à Armand, ça y est, j'ai la tonalité, je veux mon pâté, je veux mon pâté, voilà. Et il faudra lui rappeler pour quelle émission c'est quand même. Hein, parce
oui,
que...
c'est mieux.
Alors, est-ce que vous-même, vous composez, Guillaume ?
Alors, très bonne question. J'ai essayé. J'ai essayé de fabriquer deux ou trois morceaux, mais ça, j'avoue que ça ne marche pas.
Alors, est-ce que ça ne marche pas pour vous ? Ou est-ce que vous l'avez fait écouter à des amis très sincères qui vous ont dit « Non, franchement,
alors,
ça ne marche pas ».
Non, non, j'ai même pas osé passer cette barrière-là de la faire écouter. Non, non, il faudrait que j'en sois satisfait moi-même.
Oula, mais ça, c'est long.
Non, non, c'est long. Je pense que c'est plutôt un manque de confiance et de me lâcher. Je pense que c'est plutôt ça.
Je crois que c'est ça, effectivement.
Voilà, ça viendra peut-être un jour. Mais en tout cas, il y a tellement de beaux morceaux composés par les autres que bon, pour l'instant, je m'inquiète pas trop.
Mais je voudrais dire aux auditrices et aux auditeurs, rebondir là-dessus, c'est quand même très très compliqué, pas forcément de composer, mais de le montrer à d'autres, parce que c'est très intime. Et donc, voilà, je veux dire, quand on voit un musicien comme vous, qui jouait très bien du violon, ça fait très longtemps, etc., et qui dit oh, « oui, moi mes compositions sont pas terribles », je pense que ça peut rassurer, parce que si vous ne les avez pas fait écouter à d'autres, en fait, qui pourra le juger ? Parce que
c'est vrai.
C'est très... Enfin, soi-même, être content d'une composition qu'on a fait, c'est compliqué, je trouve, parce qu'on se dit « Ah ouais, mais c'est du déjà entendu ». Ben forcément, puisque c'était dans notre tête. Donc voilà, auditrices et auditeurs, si vous composez, allez-y. Surtout, faites-le écouter par d'autres. Et si les autres font une mauvaise tête au bout d'un moment, tous, eh bien, peut-être que vous pourrez dire ça. C'est peut-être pas terrible, mais voilà. Avant ça...
Et je fais un clin d'œil à mon pote Mathieu. Donc, continue tes compos. Hein, on joue un morceau, une valse à 5 temps, parce qu'il y a aussi une évolution dans le répertoire. On fait plus seulement des valses à 3 temps, mais des valses à 5 ou 8 ou plus. Eh bien, voilà, il a composé une valse à 5 temps qui s'appelle Rayonnance. Voilà, Rayonnance.
Et que vous allez nous jouer.
Non, celle-ci, je ne peux la jouer qu'avec lui. Voilà, donc,
ah, d'accord. Bon, Mathieu, on vous attend.
Voilà, et donc, c'est sûr que c'est toujours intimidant de la présenter. Et bon, il l'a osé, et puis finalement, ça marche bien.
Alors, voilà. C'est vrai que quand on le présente à deux, on est un peu moins... ou que c'est les copains qui présentent les propres compositions, c'est moins, on se cache un peu, on dit j'étais pas là quand je l'ai fait. Est-ce que vous avez une autre compo à nous présenter?
Alors ben oui, pourquoi pas. Là c'est une composition de Pierre Touré. C'est un violoneux qui a du Puy de Dôme. On n'a pas encore joué de bourré, ça a commencé à m'inquiéter un petit peu.
Ah ben oui.
Voilà, donc. On va pouvoir rétablir tout ça. Donc une bourrée à 3 temps qui s'appelle la bourrée de Pierre Touré. Bourrée à Touré.
C'est vrai que ça manquait dans les studios là. On se rend compte quand même que c'est une énergie différente par rapport à ce que vous avez joué précédemment.
Oui, bien sûr.
Alors là, il y avait un appel.
Oui, oui.
Mais il y avait aussi un final.
Voilà, c'est ça. Qui peut être très très divers selon les musiciens, les régions. Voilà, donc on peut se faire plaisir. C'est comme un buteur au foot qui va célébrer son son but en faisant tout un tas de gestes. Voilà,
et ça dépend en plus si on a tiré du côté du Cantal ou Aveyron. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil.
Pour ceux qui écoutaient la semaine dernière.
Oui, on fait un petit rappel de la dernière émission. Je vous conseille d'aller voir, d'aller écouter ce qu'on a dit. Donc ça, c'est une bourrée de Pierre Touré. Donc, Pierre Touré, c'est un musicien tout à fait actuel.
Oui, oui, contemporain. Bien sûr. Tout à fait, oui.
Parce qu'on avait, à la première émission, Mouret.
Alfred Mouret, qui fait partie de tous ces violonneux. Alors, j'allais dire papy violonneux, sauf qu'un jour, il n'était pas papy. Hein. Mais nous, moi, quand j'étais jeune, j'en ai connu certains, notamment Joseph Perrier, André Gatignol, tout ça. Bon, ben maintenant, ils sont tous morts. Et c'est vrai qu'il y avait toute une génération de violonneux. Je crois que le dernier violonneux de l'Artense a dû mourir il y a 3-4 ans peut-être. Voilà.
Dans cette génération. Parce qu'il y en a des nouveaux quand même. Quand on voit Pierre Touré, lui, il est de l'Artense.
Non, je crois pas. Non. Non, après, dans cette région, je pense pas qu'il y ait un... Il n'y a malheureusement pas vraiment de suite dans la jeunesse de l'Artense, mais j'aimerais être contredit. Hein, je ne connais pas tout ce qui se fait non plus.
Voilà. Mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que ces violonneux ont encore vécu à une période où on pouvait enregistrer. Donc il y a des collectages qui ont été faits et qui peuvent se retrouver, si je ne m'abuse pas, à l'EAPEM, ou dans la région d'Auvergne. Je mettrai tout ça au service d'Armand pour qu'il puisse l'écrire dans le dans le blabla du podcast.
Oui, notamment les centres de musique traditionnelle en Limousin, en Auvergne. Voilà, ils ont enregistré de ressources.
Voilà. Et puis il y a beaucoup de jeunes qui ont repris et qui ont travaillé dessus.
Notamment, d'ailleurs, Basile et Hervé Capel qui forment le duo Artense que certains connaissent.
Oui, qui est assez connu, effectivement, il travaille beaucoup sur ses musiques. Alors là, on était en Auvergne, mais j'ai l'impression que vous jouez aussi de la musique du Lot et du Quercy. Parce que ça nous intéresse, hein, Armand ?
Bien sûr.
Oui, bien sûr. Par exemple, il y a des danses qu'on ne danse pas, nous, en Auvergne, comme les rondes du Quercy.
Ah bah non, forcément.
Exactement.
Rondes du Quercy, c'est le Quercy.
On les danse maintenant, puisque avec la... Depuis qu'il y a des routes entre les départements,
d'accord.
Les danseurs peuvent se...
Et le Wi-Fi.
Oui, voilà, c'est ça. Peuvent se déplacer. Si vous le voulez bien, on peut vous jouer, par exemple, le Pont de Lyon.
Le Pont de Lyon qui sera suivi de...
À Bordeaux, pour ceux qui connaissent l'occitan, ça veut dire à Bordeaux. Voilà.
Et oui, voilà. Allez, c'est parti. Une ronde du Quercy, alors le pont de Lyon et à Bourdeau, interprété par Guillaume Schilling, voilà. Et moi-même.
C'était bien plaisant.
Alors je fais une petite dédicace à Xavier Vidal, que nous aurons bientôt en studio, puisque c'est quand même grâce à lui que l'on danse la ronde du Quercy, plus comme un rondeau, mais comme une chorégraphie qui a été faite à partir des dires de collectage. Puisque moi, quand j'étais petite et que j'allais dans les bals traditionnels, eh bien, nous dansions la ronde du Quercy en rondeau. On ne savait pas trop comment faire autrement. Et Xavier a réussi à trouver quelque chose. Alors, on ne sait pas si ça se dansait réellement comme ça, mais en tout cas, c'est une chorégraphie qui plaît beaucoup, puisque depuis, j'ai couru les bals un peu partout en France et même à l'étranger. Même à l'étranger, les gens, que ce soit des Hollandais ou des Allemands, des Espagnols, des Italiens, ils aiment beaucoup danser la ronde du Quercy, ouais. Comme l'a enseigné Xavier Vidal. Alors cette musique du Quercy, vous l'avez rencontrée quand ?
Moi, je dirais en tant que voisin, en allant dans les bals, en mélangeant les répertoires, en faisant des boeufs, hein, beaucoup, parce que ça, c'est intéressant à... à la fin des bals, souvent il y a une partie où les différents musiciens qui ont joué, ou alors les musiciens présents dans la salle qui n'ont fait que danser, se regroupent à la fin et selon les affinités jouent tel ou tel répertoire, et des mélanges de répertoires et des échanges, et qui sont toujours, pas toujours, mais en tout cas de temps en temps féconds, et voilà, ça permet de rencontrer d'autres horizons.
Ah oui, effectivement. Alors, les bœufs de fin de bal, ce sont des bœufs ou sessions pour les auditeurs et les auditrices. C'est quand même un moment très convivial, puisqu'il y a le moment du bal où il y a le groupe qui est sur scène et qui a une petite liste comme celle que vous avez là présentement, Guillaume. Un musicien prépare les morceaux qu'il va jouer. Il sait à l'avance. Et puis, lors du bœuf, c'est un peu plus libre, c'est-à-dire qu'on essaye de se regrouper et de jouer ensemble si possible. C'est d'ailleurs ce qu'avaient fait les Italiens et les Auvergnats quand ils se sont rencontrés à Paris, les uns arrivant avec l'accordéon, les autres avec la cabrette, et ben, on va voir si on arrive à jouer ensemble.
Alors, a créé voilà, le musette.
Le style musette. Et je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que nous avons 4 podcasts qui ont été effectués là-dessus.
Oula.
Sur le musette, effectivement, avec Tiennet Simolin, et qui raconte cette rencontre. Alors, est-ce que vous, Guillaume, vous vous définissez plus comme un musicien de bœuf ou de bal? Ou les deux?
Oui, je dirais les deux, parce que tout dépend ce qu'on appelle bal aussi. C'est vrai qu'il y a les bals programmés avec une programmation établie à l'avance. Voilà. Après, il y a les bals qui sont aussi une scène ouverte. Par exemple, depuis plus de 20 ans, voire même plus de 25 ans, sur Aurillac ou dans les environs, il y a tous les premiers vendredis du mois, il y a un bal qui se déroule, qui a traversé toutes les avanies et qui permet de faire jouer tous les musiciens du coin. Et donc là, selon les époques, soit on fait une liste de gens qui jouent, ou alors les gens viennent jouer. C'est une sorte de grand bœuf qui dure tout le bal, voilà. Et donc
Dites-nous, ça c'est intéressant, justement, pour les musiciens qui ont envie de participer. Donc tous les premiers vendredis du mois, ça se situe où ?
Alors là, je serais bien en peine de vous le dire, puisque avec la pandémie, tout a été bouleversé. En plus, c'est difficile de trouver des lieux. Donc ça a beaucoup changé. J'aurai peut-être l'occasion de vous le dire sur le site.
Très bien.
Sur la page consacrée à l'émission. Si nous avons un lieu en vue, et voilà, vous pourrez être au courant, sachant qu'il y a plein d'initiatives, notamment je pense à l'Aveyron, à Entraigue, troisième vendredi du mois, et j'en oublie peut-être d'autres, sûrement, où ces espaces sont libres, c'est-à-dire qu'on peut venir librement danser. On ne sait pas danser, on a envie d'apprendre, on se greffe, il y a toujours quelqu'un qui vient nous montrer. Et dans le bal, c'est pareil, scène ouverte.
C'est musicien.
Voilà, on se propose, et puis quand on ne sait pas jouer, on se met derrière, on essaye d'attraper les thèmes, ou alors
on les enregistre.
On en propose un, et comme ça les copains nous aident à le jouer, voilà.
Et on les enregistre.
C'est ça.
Alors nous allons finir cet épisode avec ça. Je trouve que c'était une très très belle ouverture. Vous donnerez donc toutes vos infos à Armand, toujours lui, qui mettra tout sur le podcast. Et si jamais, chères auditrices et chers auditeurs, vous avez des questions à propos de ces balles, eh bien je vous propose soit de regarder sur le site, soit d'appeler au
05 65 348 348.
Et nous essayerons de vous donner les renseignements. Merci beaucoup Guillaume, à la prochaine fois.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Et merci à Armand.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.